globalization does affect a variety of aspects of our lives. And as anarchists, there's an increasing realization of this and participation in these types of movements.
You're listening to CKUT 90.3 FM, and we're broadcasting live from the Anarchist Book Fair down here at 2515 Rue de Lille. The book fair is going till 6 o'clock tonight, and there'll also be a day of workshops that's going to be on tomorrow at the same venue, starting from 10:30, going through to 6. Coming up soon, we're going to be having some book reviews of some of the books, some of the people that are selling books down here. There are going to be some book reviews in French and also in English. And there'll also be a number of panel sessions with some of the participants down here. There's quite a rich vein of experience, of struggle, of thoughts here, and a real range of ages and backgrounds of people that have turned out for this book fair.
Well, I think one thing that could be very interesting for listeners to mention is that there's going to be members of the community of Kanasatagi giving a culture on anarchism and Iroquois resistance or Mohawk resistance. And I mean, even, you know, just an hour and a half away, we're seeing anarchists in the community of Kanasatagi playing a vital role in that resistance. And of course, indigenous resistance here on Turtle Island is something that has been a focus of a lot of media recently, but of course, the focus of indigenous communities for over 500 years. But anarchists are also playing a role in this.
Yeah. Well, we've just actually got the schedule going up on the wall opposite us. So what we can tell you is that from 3 to 3.30, there's going to be book reviews in French with Sophie and Brett. From 3.30 to 4, there's going to be... there's going to be from 3 to 3.30 book reviews from Sophie and Brett.
So starting in just a minute.
And then we've got Anarchist People of Colour. That's going to be a panel from 4 to 4.30. Neil's going to be moderating that. There's going to be an open mic between 4.30 and 5. And then from 5 to 5.15... Anarchism and Communities, 5.15 to 5.45, Anarchism and Culture, and 5.45 to 6.15, Anarchism and Social Movements. So we've got a pretty full afternoon for you coming here down live from the book fair. And I'm going to hand you over now to Sophie, who's just joining us, for the section on book reviews in French. Just introduce you.
Yes, bonjour, c'est Sophie. Et donc, on est ici au Salon du Livre Anarchiste aujourd'hui, samedi, le 15 mai. Donc, vous avez entendu l'introduction. On a présenté en quoi c'est important de tenir cet événement. Ça fait déjà 5 ans que ça se tient. Et maintenant, on va commencer à parler avec des éditeurs, avec différents éditeurs qui sont ici, au Québec, qui éditent des livres alternatifs, d'informations sur alternatifs. Et une des premières personnes avec qui je vais m'entretenir est Dominique Desbiens. Bonjour, Dominique.
Allô.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui. Dominique, est-ce que c'est... toi, tu fais partie d'un collectif d'éditeurs qui s'appelle BD Collective?
Non, pas du tout. Moi, c'est les éditions Amérisque.
Les éditions Amérisque.
Oui.
OK. Et est-ce que c'est une des... Ça fait combien de temps que... Est-ce que c'est la première présence ici au Salon du Livre Anarchiste?
Oui, absolument.
OK. Est-ce que... Parle-moi de ton livre. Tu m'en as amené ici. Ça s'appelle Havre exquis. Est-ce que ça, c'est un des premiers livres? C'est pas un des premiers livres que vous faites, ça?
Non, c'est ça. Amérisque, on publie depuis peut-être 96. Un magazine qui s'appelle Exil.
Oui.
Puis Exil, on l'a passé à un autre éditeur, puis maintenant on tire le nouveau titre Havre exquis, qui est le premier de peut-être une série.
OK. Qu'est-ce que c'est les éditions Amérisque?
C'est un peu le prétexte à Exil qui est venu avant les éditions Amérisque, c'est-à-dire un collectif de BD local montréalais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient en BD en 93 quand on a commencé. Fait que c'est comme de l'autopublication finalement.
OK, vous êtes combien dans votre collectif?
Avrexki, on est une vingtaine d'auteurs, puis Exil, ça englobe à peu près une douzaine.
OK. Et donc ça, tu me dis que c'est le premier bouquin que vous produisez, Avrexki. Ça représente quoi, là? Vous me dites un Avrexki, un monde utopique. Parle-moi un peu de ton livre aussi.
Oui, bien, c'est, on se projette dans Montréal en 2020 à peu près. Puis on délire un peu sur le scénario de ce que ça pourrait être. Dans le meilleur des cas, disons.
OK.
Il y a des jardins suspendus, s'il y avait plus de pistes cyclables, si justement il y avait plus de place.
Êtes-vous si optimiste que ça?
On l'est pas, mais on essaie de l'être.
Donc ça, c'est une BD, en fait, hein, puis un format quand même particulier. C'est pas un gros livre, là. C'est même, je trouve que c'est un format parfait pour entrer dans un sac, là. Mais de quoi, là, tu me dis que vous vous projetez en avant, 20 ans d'ici, et l'histoire raconte quoi?
Ben ça parle beaucoup d'écologie.
Oui.
Puis justement... c'est qu'il y a beaucoup de problèmes, tout le monde essaie dans le monde aujourd'hui, puis on fait un petit peu la guerre aux matérialistes.
Okay.
Dans cette histoire-là, il y a véritablement une guerre qui se passe, puis c'est les verdistes qui, pour changer le monde, pour choquer un peu la structure actuelle, fait la guerre. Puis suite à ça, il y a la nature qui va reprendre le dessus après l'espèce de sommeil qu'on retrouve à la fin de la BD.
OK.
Puis pour le prochain numéro, ça va être un nouveau départ où la nature a pris le dessus sur la ville, sur toute la structure.
Ouais. Qui est-ce qui a fait les dessins? Parce qu'ils sont beaux, vos dessins, là-dedans.
C'est bien gentil.
Moi, je les trouve très, très beaux. Est-ce que tu as participé au dessin, toi?
Oui, je dessine dedans aussi.
OK.
Mais,
ils sont très beaux.
On est une vingtaine. Il y a, entre autres, Bruno Rouillère, une petite apparition de Jacques Goldstein, Jean-Paul Lade, Michel Lacombe, Leftnan.
Jacques Goldstein qui fait beaucoup de dessins, entre autres, pour... comment ça s'appelle? Les sciences?
Les débrouillards.
Les débrouillards,
je pense que lui, c'est un cadeau qu'il nous a fait en participant avec Avrexki.
C'est vrai?
Oui, parce qu'il est vraiment bon.
Parce qu'il est vraiment bon, oui. Ouais, il travaille beaucoup avec les débrouillards, puis le magazine... pour la vulgarisation des sciences.
Oui. Okay. Mais il y a plein de petits trucs dans, excuse de te couper dans Avrexki. Par exemple, comment se laver les fesses après avoir été aux toilettes sans utiliser de papier de toilette.
Ah oui? Donc on va en apprendre en plus.
Ben oui.
OK. Donc ça, est-ce que vous en avez vendu déjà maintenant?
Ben oui, il est en distribution présentement dans les librairies, un petit peu partout à Montréal, j'imagine.
Okay.
Dans quelques cafés, restaurants aussi.
OK. Puis ici, là, au salon, vous en êtes à votre première présence. En fait, ça est sorti, ça fait pas longtemps. Mois de novembre, tu
novembre
me disais?
Dernier, ouais.
OK. Et maintenant, est-ce que ici, au salon, vous avez réussi à vendre quelques exemplaires de ça?
Oui, on en a vendu une quinzaine depuis ce matin.
Oui, parce qu'il est vraiment d'une qualité assez merveilleuse. Pour ce que moi je connais des BD, c'est même des dessins assez hallucinants de voir ça.
C'est bien gentil.
Mais puis est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en préparation?
En préparation, un nouvel Exil, comme je t'ai dit, je sais pas si tu connais Exil, au mois de septembre ou octobre prochain, mais publié chez Zone Convective, puis d'autres projets plus ou moins officiels là, à travers les arts et la bande dessinée.
OK. Et toi, pourquoi est-ce que tu en es venu à collaborer à ça, Dominique?
Ben moi, c'est le désir de justement faire de la bande dessinée, puis de pas trouver d'éditeur sur ma route que j'ai, avec des chums du cégep dans le temps, on s'est ramassé une petite gang, puis... ça fait boule de neige, là, puis on a fini par faire le tour des BDistes au Québec, là, puis souvent, on se retrouve dans les mêmes événements, les mêmes expos.
Et ça vous a pris combien de temps pour décider de ce projet-là? C'est-à-dire de l'idée jusqu'à ce produit-là qui est vraiment... Oui.
Ben moi, je dirais... c'est Bernard Gagnon qui a parti le concept de Avrexki. Puis, il voulait la faire sous forme de, on sait pas trop, pièce de théâtre, spectacle, de musique.
Okay.
Puis, il y avait un ami, Bruno Rouillère, qui faisait de la BD, qui me connaissait. Puis, Bruno puis moi, ben on a trouvé d'autres BDistes, puis on a décidé de le faire en BD.
OK. Ouais. Bon, c'est bien. Et donc, là, maintenant, tu travailles sur le projet du mois de septembre, là, maintenant.
Ouais.
Et est-ce que tu travailles sur d'autres projets dans ce secteur-là?
Ben j'ai un livre solo qui devrait sortir chez 400 coups septembre ou octobre prochain aussi. C'est plus un recueil de textes et de peintures, illustrations, avec une exposition qui va venir avec. Mais sinon, c'est à peu près ça la date.
Ben écoute, Dominique, je te remercie beaucoup
pour
avoir pris le temps de venir ici. Là, pendant que tu es ici, il y a quand même ton stand. Il y a quelqu'un à ton stand, là?
Ouais, je ne voudrais pas voler mes livres.
Ben, j'espère, parce qu'avec la beauté de ce livre-là, moi, ça m'a surpris quand je suis rentrée, parce que vous êtes bien situé maintenant ici dans le salon. Et les dessins qui sont
dedans. C'est un beau festival, le Festival de l'Anarchie, quand même. Hein?
Ben, moi, c'est un beau festival, certain.
C'est ma copine qui m'a initié à ça, puis je ne le connaissais pas, le festival.
T'es-tu anarchiste, toi?
Je ne sais pas, peut-être inconsciemment.
On le sait pas, peut-être inconsciemment.
Mais je pense que la vie est anarchique.
Ben là, actuellement...
Même l'écologie, je dirais que c'est anarchique. Là.
Oui.
C'est ça, la vie au sens naturel, elle l'est. T'sais. Autant c'est organisé, autant c'est chacun pour soi. T'sais.
Ou ouais.
En même temps, une espèce de d'échange de bons procédés entre les êtres vivants. Puis
comment tu trouves ça, le festival ici? Ben, en fait, le salon maintenant, aujourd'hui?
C'est super.
T'aimes ça?
Oui.
Il y a beaucoup de monde, hein?
Oui, les gens sont heureux quand même. Hein?
Ben, les gens ont l'air heureux.
Oui. Ouais.
Bon, ben écoute, Dominique, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Puis là, je vois que notre prochaine invitée est encore loin d'ici, mais je la vois et je vais aller la chercher. Et ensuite, je vais revenir à nos interviews sur le. Donc, on est en train de faire la revue.
Il manque un invité. On l'attend impatiemment.
Alors, on attend Sandy.
Est-ce que je peux te poser des questions en attendant?
Tu veux me poser des questions?
Ben
vas-y,
oui.
Dominique, pose-moi des questions.
Toi, c'est quoi tu fais dans la vie à part être animatrice?
Moi, je suis journaliste en profondeur à CQUT.
OK.
Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et CQUT vous présente cette programmation spéciale sur le Salon du livre anarchiste. Et on a Sandy qui arrive. Oui. Ça va être rapide.
Okay.
Et il y a Max aussi qui...
Ben, je suis là, hein?
Max qui est là et qui va m'aider à faire les interviews avec Sandy. Sandy qui est des éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Sandy, ça va bien? Attends une minute, on t'entend pas. OK, il faut changer de place. C'est le Festival de l'Anarchie.
Ça, c'est pas que...
Mais j'ai tutoyé, non? Ah, c'est Max qui vous voit maintenant.
C'est ça. Bonjour. Mes cheveux blancs.
Oui, ça indispose.
Oui,
ça donne un aspect sérieux.
Ça doit être ça.
Bonjour Sandy, comment ça va?
Ça va bien.
Max, as-tu tes écouteurs?
Oui, mais c'est un peu fort. Donc,
OK, c'est un peu trop fort. Puis là, c'est le micro qui ne fonctionne pas. On peut commencer à parler, par exemple?
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses, Max? On va parler, on va se partager le micro. Oh,
oui.
On va s'embrasser presque, là.
Check. OK.
Ah, ça fonctionne. Ah, dommage. Bon.
All right.
OK. Ben c'est l'anarchie. C'est le fun comme ça aujourd'hui. Bon. Donc, vous êtes à l'écoute de CQUT 90.fm et nous sommes en direct du Salon du livre anarchiste qui est au 25-25 rue de Lille, près du métro Lionel-Groulx. Donc, on a commencé à diffuser, il était environ 2h30 aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en train de faire la revue des livres, des éditeurs et des livres qui sont en présentation ici. Et nous sommes avec Sandy. Bonjour Sandy, comment ça va?
Ça va bien.
Bon, toi Sandy, tu es des éditions de l'Encyclopédie des nuisances?
Oui, entre autres.
Entre autres ça,
oui.
Et aussi tu me disais que c'était l'autre qui était le
Black and Red.
Black and Red.
Une maison d'édition qui vient de Détroit.
Qui est anglophone.
Oui, puis un autre journal anarchiste anglophone aussi.
OK. Ça fait combien de temps que tu es ici? C'est-tu la première présence au Salon du livre anarchiste?
C'est la cinquième.
C'est la cinquième, donc tu es là depuis le début?
Oui.
Et est-ce que tu trouves ça avantageux d'être au Salon du marché? Qu'est-ce que tu trouves important? Pourquoi est-ce que c'est pour toi c'est important d'être ici?
Parce que c'est convivial. C'est pas question de vendre là, mais c'est convivial, c'est important. Puis aussi qu'il y a beaucoup de monde, pas juste le monde qu'on connaît qui sont dans les événements, le grand public entre guillemets qui viennent. Ça, je trouve ça vraiment génial.
Ok. Parle-moi un peu de cette maison d'édition là, de l'Encyclopédie des nuisances.
Oui. Mais dans le fond, c'était un groupe des personnes au départ étaient les anciennes situationnistes, le monde qui était très impliqué dans mai 68. Et au lieu de centrer sur comme le racisme ou lutte de classe, ils vont plus loin. Et c'est toujours la question de l'aliénation et la domination. Donc, ils vont prendre quelque chose comme les OGM et pas dire, oh, on va lutter contre les OGM. Mais c'est sûr qu'ils en font. Mais de dire ça, ça fait partie de la domination qui veut éradiquer toute la vie et qui veut que la vie devienne tout qui on peut mettre une pièce. Donc, les gènes ou même les plantes deviennent la marchandise. Et c'est ça contre ça. Okay? Okay. Ou ils vont être contre l'idée, la vitesse. Dans ce sens, ça veut dire la vitesse, c'est comme un peu le fait qu'on ne prenne pas plus le temps. Ou ils vont être contre, vont parler plus comment. Mais c'est beaucoup vraiment l'aliénation.
Okay. Donc, si je comprends bien, vous regardez l'ensemble, les ensembles du problème ou l'ensemble du problème. Plutôt que. Donc, chaque thème est lié à un autre thème, si j'ose dire. Là.
Oui, dans un sens, oui. C'est sûr que la question de l'aliénation est comme un parapluie, mais des choses précises, comme ils ont. Il y a un texte sur la révolte en Algérie, en Kibeli, parce que le gouvernement algérien voulait que ce soit comme une révolte de libération nationale, mais ce n'était pas ça du tout. Parce qu'ils étaient contre, les Kibans qui ont fait cette lutte-là étaient contre leurs propres dirigeants. C'est vraiment une lutte de base et ils ont comme établi un système de démocratie directe. Donc, on touche ces choses-là aussi.
OK. Là, vous avez combien de livres, vous distribuez combien de livres là, dans les éditions? Parce qu'on parle des livres francophones ici, dans cette demi-heure-ci.
Oui.
Et vous avez distribué...
Une quinzaine
de livres.
Oui.
Et tout à l'heure, quand je vous ai rencontré à votre table, vous m'avez parlé d'un livre que vous trouviez très important. Quel est le titre?
Qui est en là? Oh.
Il est en français ou en anglais?
Mais je ne sais pas si je sais quel.
C'est celui qui est un petit peu épais, là.
Okay, mais je pense que j'étais en train de parler d'un livre en anglais, mais aussi, ici, je trouve qu'en français, ils ont des livres, comme je dis, de base, qui vont plus aller plus loin que dire oh, les OGM, ce n'est pas bon pour notre santé. Qui vont dire vraiment les OGM, parce qu'il y en a la mentalité capitaliste et industrielle d'étouffer la vie. Ça veut dire que la vraie vie, puis penser que la science peut tout faire mieux et tout remplacer. C'est pas une idée de retourner en arrière, mais c'est une idée plutôt de trouver comme la source des aliénations.
OK. Qu'est-ce que vous voyez par l'aliénation?
L'aliénation, c'est la séparation ou la distance qu'on a avec la nature. Mais je ne parle pas d'aller promener en forêt. Là. Le fait qu'on est... On mange des choses qu'on n'a aucun lien avec. Les enfants pensent maintenant que tout ça pousse dans les supermarchés.
Ouais.
Okay? C'est les coupures avec la nature, mais dans un sens profond. Comme je dis, je ne parle pas d'aller marcher à la montagne.
Ouais, ouais, ouais.
De comprendre le processus qui commence quelque part et finit quelque part.
Donc, vous serez d'accord alors avec moi si je disais par hasard que les supermarchés, en fin de compte, font partie du complexe industriel, du complexe...
Oui, même, il peut y avoir même un complexe d'agriculture bio.
Ah ben oui.
Ou on peut avoir l'agriculture soutenue par la communauté. C'est une différence importante.
Oui.
D'essayer être plus proche, qu'on est soutenu par la communauté. La communauté va aller à la ferme, va participer, va savoir c'est quoi. Même les jardins communautaires, quelque part, c'est moins aliénant que de les acheter dans... Je sais que tout le monde ne va pas aller dans un jardin communautaire, mais c'est quand même d'avoir cette idée que la bouffe vient de quelque part, et ce n'est pas la science qui l'a fait, comme pousser... Parce que le but de ça, à la fin, il y a deux choses. C'est soit le TV dinner qu'il y avait dans les années 50, là, puis qui tout était comme divisé, ou un petit pilule qu'on n'a plus besoin de manger. Donc, casser la croûte, non, c'est démodé.
Mais moi,
je voudrais bien qu'on casse le croûte et on fait la bouffe. Il y a des enfants qui ne voient jamais leurs parents toucher la nourriture, de préparer la nourriture.
C'est vrai.
Donc, il n'y a pas un lien organique, mais je ne sais pas, bio, mais...
Je vois ce que vous voulez dire. C'est comme s'il y avait une alignation à la vie en tant que telle.
Mais c'est ça que j'ai dit.
Oui. Et l'anarchisme, en fin de compte, ce serait, ce serait le soutien de la vie.
Hein? Le
soutien de la relation et des relations.
Mais je pense que l'anarchie, dans ça, c'est de façon aussi, c'est s'il n'y a pas de domination, il ne peut pas avoir. Si on dit l'anarchie, s'il n'y a pas de domination, puis c'est l'organisation sans pouvoir, pour le dire un peu cliché, mais c'est ça. Ben, on ne peut pas avoir la science du supermarché comme ça. C'est impossible s'il n'y a pas de domination de tout. Vraiment, pour moi, ce n'est pas un cliché. Ça n'existerait pas.
Ben, écoutez, merci beaucoup.
OK, c'est beau.
Merci, Sandy, pour avoir pris du temps pour venir ici parler des livres de les éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Max, as-tu lu pas mal de livres, toi?
Si, moi, j'ai lu des...
T'as-tu lu pas mal de livres qui sont ici distribués? Est-ce que t'es un adepte des livres anarchistes, toi?
Il y en a un, justement, qui est publié, qui...
Que t'as acheté?
Oui, c'est
t'as ça. T'en as acheté un tantôt, toi?
Oui, c'est ça. Je me suis acheté le livre de...
La simplicité volontaire de Serge Mongeau.
Et auparavant, avec le don que j'ai fait à CKUT, j'ai reçu comme cadeau un livre aussi publié par Éco-Société, le livre sur les graines transgéniques. Qui est aussi publié par Éco-Société. Ça fait un peu le lien entre l'aspect agriculturel dont on vient juste de parler.
Et la prochaine personne que nous avons avec nous, qui est Julie des éditions Éco-Société. Bonjour Julie.
Bonjour.
Julie, les éditions Éco-Société, ça fait quand même son bout de chemin là maintenant. Ça fait presque...
C'est notre 12e année d'opération.
12e année, oui, c'est ça, j'allais dire 10 ans. Là. 12 ans et ça semble bien fonctionner pour ces éditions-là parce que les sujets que vous abordez sont quand même différents des grandes maisons d'édition qu'on connaît ici au Québec.
Oui, mais c'est sûr que ça reste, on reste marginal. Une maison d'édition marginale et on dépend, comme tout le monde, de nos ventes. Et puis, tout le monde pense que ça va super bien. On aimerait ça pouvoir laisser cette impression-là, mais on a démarré une campagne de financement.
Ah oui?
Oui, parce que...
Est-ce que c'est un organisme sans but lucratif, les éditions Éco-Société?
Ça l'était au départ, mais on est devenu une entreprise privée pour pouvoir réclamer les crédits d'impôt. Mais je veux dire, tout le reste, comment on fonctionne, l'organisation, ça reste maison d'édition, le travail d'équipe, le militantisme, tout ça, c'est important.
Ouais. OK. Donc, mais quelle est la situation actuellement pour une maison d'édition marginale comme la vôtre, là? C'est pas facile?
Non, mais ces dernières années sont pas faciles pour le monde de l'édition globalement, en général, dans les salons du livre, tous les éditeurs remarquent des baisses de ventes.
Mm-hmm.
C'est dû, il y a beaucoup de produits culturels, donc il y a une compétition. Mm-hmm. Donc le livre, les gens lisent moins, passent plus de temps sur Internet, tout ça.
Est-ce que vous pensez que les gens lisent moins à cause du prix des livres ou à cause de la disponibilité?
Il y a sûrement plus qu'un facteur.
Justement, vous parlez d'Internet. Alors, l'Internet est beaucoup plus disponible, beaucoup plus répandu.
Ben, les gens passent plus de temps sur Internet.
Et puis, il y a beaucoup d'articles, par exemple, qu'on peut lire sur Internet. Est-ce que ça vous nuit, ça, vous pensez? Ou...
Mais sûrement, on n'est pas en mesure de l'évaluer, mais en même temps, on a des livres. Notre chance, c'est qu'on a des livres qui sont... On a à la fois des auteurs locaux, des auteurs québécois.
Oui, c'est ça, justement. Ouais.
Puis on essaie de traduire des textes qui sont importants.
C'est quoi l'avantage du livre, justement? Hein? Quand on parle du livre en termes de forme physique par rapport à, disons, Internet pour transmettre l'information, les idées et tout ça, point de vue dans notre cercle à nous, là. Je sais que c'est une question assez vaste, là. Ouais.
Moi, je peux déjà en donner des avantages du livre. Je peux vous en donner. Moi, je pense que... Moi, j'adore mon ordinateur, mais je vais pas me taper des 100 pages sur un écran d'ordinateur.
Vrai, ça, ouais.
Moi, je peux transporter un livre. Je peux le lire à différents endroits, dans un parc, dans l'autobus, dans le métro, tout ça. Mais
avant de se coucher.
Oui, avant de se coucher, bien... Oui, mais c'est pas la meilleure place.
Non.
Non, mais maintenant, vous en êtes quand même pas à votre première présence ici au Salon du Livre Anarchiste, hein, Julie. Vous êtes là quand même depuis un bon bout de temps. Je sais que vous étiez là l'année dernière. Étiez-vous là avant?
Sûrement, sûrement. Okay. J'ai nouvellement joint l'équipe, alors j'ai pas toutes les statistiques avec moi, mais j'imagine qu'on devait être là pas mal dès les débuts.
Oui. Puis vous en présentez combien de livres ici maintenant?
On est rendu à
beaucoup, hein?
Oui. Notre collection, on a 94 titres, mais on les a pas tous amenés.
Non, bien sûr.
On a 10 à 15 titres nouveaux par année. Donc, disons qu'au Québec, on était la première maison d'édition à traduire du Chomsky. Donc, ça donne une idée de l'orientation de la maison.
OK. Et quels sont les thèmes qui sont abordés dans les éditions Éco-Société? Vous avez quand même pas mal de thèmes.
Oui, ça va être difficile de résumer ça. Mais,
ouais. Mais les thèmes que toi, parce que toi, tu dois être une bonne lectrice, puisque tu as joint une maison d'édition comme celle-là, tu dois lire beaucoup. Il doit y avoir quand même un attachement pour commencer à travailler dans une maison d'édition marginale à ces thèmes qui sont abordés. Quels sont les thèmes que toi, par exemple, toi, tu préfères et que tu retrouves dans les éditions Éco-Société?
Je vais te décevoir dans ma réponse, mais
pourquoi?
Je trouve que il n'y a pas un type de thème qui m'est plus cher qu'un autre. Je pense que ça peut être pour ça. Mon attachement à la maison vient surtout du fait qu'on essaie de susciter la réflexion dans à peu près tous les domaines. Tu sais. Comme je donne un exemple, un de nos titres qui vient de paraître il y a 2 semaines, c'est « La dérive sanglante du Rwanda ». Donc, ça traite, en fait, c'est un livre de Dominique Payette, qu'on connaît surtout à la radio, qui a fait une recherche assez exhaustive, qui donne des fondements à d'où vient, qu'est-ce qui a préparé ce génocide-là, qui est difficile à comprendre. Inexplicable,
ouais. Oui.
Puis, tu vois, on a des sujets comme ça, des livres qui vont traiter de questions internationales, mais ce livre-là, pourquoi on le publie? C'est un livre important parce que, en le lisant, on comprend finalement les mécanismes puis on se rend compte que ça pourrait arriver n'importe où au monde. Toute cette espèce de... que c'était un génocide qui était préparé, c'était... c'est ça. Donc, ce livre-là, c'est important à lire. Finalement, plus tu lis, plus tu te rends compte qu'il y a des thèmes universels. Il y a la réflexion, on peut la faire à tellement de niveaux en même temps.
Oui.
On a un autre livre qui vient toujours apparaître aussi qui s'appelle « Désir d'humanité » par Ricardo Petrella.
Ah, oui.
Le droit de rêver.
Oui.
Moi, avant de l'entendre en conférence, je ne savais pas trop à quoi ça évoquait.
Mm-hmm.
C'était intéressant.
Oui.
C'est intéressant parce qu'il disait à quel point, en ce moment, on est manipulé de façon à croire que plus rien n'est possible. Puis lui, il revendique le droit de rêver.
Mm-hmm.
Il a donné une conférence, il y avait 300 personnes dans la salle. Il a posé la question.
Quand il était de passage ici, il n'y a pas si longtemps, là.
Oui. Il demandait, est-ce que quelqu'un ici croit que dans 20 ans, la guerre va être terminée? Personne n'a levé la main. Puis il dit, voyez comment on est finalement amené à... On est manipulé à plus penser.
À ne plus réfléchir. Ouais. Et donc, les éditions Éco-Société, moi, j'ai plusieurs de vos livres hein, parce que je trouve que vous faites un travail absolument merveilleux. Puis, ça éduque les gens. Et là, donc, celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? « Désir d'humanité » de Ricardo Petrella, « Le droit de rêver ».
Oui.
Et Noam Chomsky, bien sûr.
Les dessous de la politique de l'oncle Sam, que dans le genre petit livre...
C'est d'actualité, hein?
Ouais.
Oui.
Comment on peut... Monsieur Chomsky qui nous arrive avec des faits assez percutants.
Oui. Puis en plus, ils sont même pas chers, vos livres, là, tu sais. Quand on connaît le... Tu sais, ils sont tout petits, mais en même temps, avec le contenu, le lourd contenu d'informations et d'apprentissage que ça nous permet d'acquérir.
Oui, mais une des choses que les gens savent peut-être pas, mais c'est ça, c'est ce qui fait que on n'est pas orienté vers l'argent. On a une formule Club du livre. Les gens qui s'abonnent, finalement, on vous demande simplement de nous acheter 5 livres par année.
Oui.
Et puis ça vous accorde 30% de rabais. Okay. C'est quand même intéressant.
Et ça, ils peuvent vous contacter à Éco-Société pour ça?
Oui, c'est expliqué sur notre site web. Internet.
Quelle est votre adresse?
www.éco-société.ca. éco-société sans ponctuation, oui. en un mot, .org. Tous les détails sont là. Oui. Sinon, vous pouvez même passer à nos bureaux.
Oui. Ils sont encore sur Delorimier?
Non, partenaire près de Ontario. Okay. Donc, Club du livre, vous avez 30% sur tous nos titres à l'année. C'est une façon qu'on a d'essayer de promouvoir justement la diffusion de nos réflexions, susciter le débat.
Merci, Julie, d'être venue ici à notre table discuter un peu des éditions Éco-Société.